Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois la romancière Amélie Cordonnier qui publie en cette rentrée littéraire son quatrième roman, En Garde, aux éditions Flammarion. En Garde, c'est une histoire incroyable, celle d'une famille sans problème qui, du jour au lendemain, reçoit une lettre de la part des services de protection de l'enfance. Quelqu'un a dénoncé les parents et une enquête va être menée. Et si cette histoire est inspirée d'une histoire qui est réellement arrivée à Amélie Cordonnier, il s'agit bel et bien d'un roman dans lequel tout semble possible. Alors avec Amélie Cordonnier, on a parlé de la honte sociale que provoque un tel événement, de la place que prend la fiction dans ce roman ou encore de la manière dont l'écriture s'est installée dans sa vie plus globalement. Bonne écoute. Bonjour Amélie Cordonnier.
Bonjour Thomas Louis.
Après le premier confinement dans votre vie, s'est produit cet événement assez particulier qui a donné naissance à ce livre. Je l'ai évoqué d'une phrase dans l'introduction. Pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail, car je suppose que c'est vous qui en parlerez le mieux.
Oui, bien sûr. Ce livre, En Garde, qui est mon quatrième roman, il est né d'un choc qui a fait vaciller ma vie, comme vous venez de le dire très justement, au sortir du premier confinement. J'ai été dénoncée par un appel anonyme passé au 119 et soupçonnée du jour au lendemain de maltraitance sur mes enfants.
Alors le 119, c'est le numéro des services de protection de l'enfance, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Quel est son but ? Faisons de la pédagogie pour commencer.
Alors le 119, il vise à venir en aide en fait aux enfants qu'on estime en danger. Je précise d'emblée que je ne remets aucunement en cause dans ce livre le travail qu'effectue le service de la protection de l'enfance.
Ouais, vous le dites à la fin aussi.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, ma vie a vacillé. J'ai vécu les heures qui ont précédé les rendez-vous chez l'assistante sociale dans une peur et une sidération immense. Je dormais plus, il y avait énormément de questions qui tournaient en boucle dans ma tête. J'avais peur que les livres que j'avais pu écrire précédemment puissent servir de pièce à conviction contre moi.
Ouais, on va en parler voilà. Un petit peu de tout ça, bien sûr. Ouais. Mais ça reste un roman où il est question d'une narratrice qui s'appelle Amélie. Oui. Mais c'est une narratrice. Et au début, cette narratrice, juste avant ces entretiens dont vous venez de parler, elle croit une erreur lors de la réception de la première lettre, de la part précisément de la protection de l'enfance, jusqu'à en recevoir une deuxième. C'est là qu'elle se dit, bon, c'est peut-être pas forcément une farce tout ça. Aussi incroyable soit le contenu de cette lettre pour elle, c'est bel et bien à sa famille qu'elle se destine. C'est de dire à quel point cet événement il est incroyable, mais aussi il est incroyable parce qu'il touche une famille en apparence classique. C'est un peu l'idée aussi, c'est l'intérêt aussi de cette histoire romanesque, mais aussi de cette histoire tout court.
Oui, alors c'est bien de dire que c'est un roman, parce qu'effectivement, même si ce livre s'enracine dans un événement intime, il ne s'agit pas d'un récit, il ne s'agit pas d'un témoignage, il s'agit bien d'un roman, et je vais expliquer ensuite, si vous le voulez bien, pourquoi et comment je m'y suis prise.
Je veux bien.
En fait, il ne s'agissait pas pour moi de raconter ma vie. Du temps avait passé, 3 ans, mon troisième roman, Pas ce soir, avait paru. Je n'avais pas besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'était arrivé. Parfois, ça peut être le cas. Parfois, on a besoin d'écrire pour comprendre. Moi, ce n'était pas le cas. En revanche, j'avais envie de disséquer, en plusieurs parties d'ailleurs, puisque le roman en compte 4, de disséquer ce qui m'était arrivé pour imaginer un thriller domestique qui interroge la question de la surveillance et sur lequel plane l'ombre de 1984. C'était ça qui m'intéressait.
Le roman de Orwell.
Le roman d'Orwell.
Vous avez relu d'ailleurs ou pas pour écrire ce livre ?
Oui, alors c'est une bonne question, parce qu'en fait, le roman d'Orwell m'a habité tout le long de l'écriture. Très vite, ça m'est venu. Il y a d'ailleurs des citations qui sont cachées dans le livre. Je me suis amusée à réécrire certaines scènes. Et à un moment donné, je me suis dit non, Amélie, le relis pas tout de suite, donc j'ai vécu avec mon souvenir de 1984. Et puis à un moment donné, tandis que j'étais bien avancée dans l'écriture, je l'ai relu. Et d'ailleurs, dans la traduction au présent qu'en fait José Camoun, alors qu'à l'époque, je l'avais lu au passé, dans une autre traduction, et il y a un effet d'autant plus sidérant avec cette traduction au présent.
Alors vous avez prononcé le mot de thriller domestique, alors domestique mais thriller quand même malgré tout. Si je parle de thriller, c'est aussi parce que l'exergue du livre, c'est Hitchcock dans Psychose, et la citation elle commence avec la phrase suivante. On est toujours pris à son propre piège. De quel piège concrètement il est question ici ?
Ah, ça. D'abord, Hitchcock, ça me fait plaisir que vous lisiez cet exergue. En fait, au moment où j'ai... L'enjeu littéraire pour moi, avec ce roman, c'était d'essayer de pouvoir rendre compte de l'effroi et de la sidération que j'avais ressentie lorsque j'ai été dénoncée auprès de la protection de l'enfance et que je me suis rendu compte qu'il était absolument impossible de prouver aux autres qu'on aime ses enfants et que je me suis rendu compte de cette aberration, c'est qu'aujourd'hui, chacun, chacune peut dénoncer son voisin ou la personne qui la dérange sur un simple appel à passer au 119, qui plus est anonyme. Et comme je voulais essayer de rendre compte, donc comme je l'ai dit, de la honte qui s'était emparée de moi, il fallait que je trouve en fait la forme romanesque qui me permette de traduire cette intensité dramatique. Je voulais essayer de tendre au lecteur un miroir dans lequel il puisse se projeter et peut-être se reconnaître et ainsi lui ressentir à son tour la honte et la culpabilité qui avaient été la mienne. Et donc à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on écrit, c'est aussi un petit peu, enfin c'est toujours un petit miracle. D'abord, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait surtout pas comment on va faire, mais je savais, je m'étais dit, ah, faut que je revoie les Hitchcock. D'ailleurs, je dis revoir, je les avais pas tous vus à l'époque. Ouais. En tout cas, on m'avait offert un coffret à Noël, c'est toujours bien les Pères Noël, et donc j'avais un coffret Hitchcock chez moi. Et donc, quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de ce roman, j'ai revu les films d'Hitchcock, et c'est vrai que ça m'a aidée, parce qu'il y a une véritable tension dans ces films. Alors, Les Oiseaux, Fenêtres sur cour, et puis aussi Psychose. Donc,
Psychose.
Voilà, c'est Psychose que je cite en exergue du roman. Et je cite donc d'ailleurs dans En garde cette scène iconique dans laquelle Norman Bates, qui est le vicelard propriétaire du motel où Marion Crane se réfugie, l'espionne à travers un trou qu'il a percé dans le mur de son salon et qui donne dans sa chambre. Et il la surveille au moment où elle se déshabille, juste avant qu'elle regagne la salle de bain et qu'une silhouette floue l'assassine. Je pense que quand on a vu ce film, on se souvient toute de cette scène. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tension dans les films d'Hitchcock, qui m'a aidée à essayer, moi aussi, d'en retranscrire une. Ça me fait plaisir que vous me conduisiez à parler d'Orwell ou d'Hitchcock, parce qu'en fait, ces références, pour moi, même dissimulées, même si d'ailleurs on ne les remarque pas, elles sont là, en fait, comme un petit peu des clins d'œil dans le livre, pour rappeler au lecteur qu'on est bien dans une fiction, et que quand bien même je me mets en scène sous mon vrai prénom, et quand bien même je pars en fait d'un événement qui a fait vaciller ma vie et qui est vrai pour de vrai, de vrai, de vrai, on est bien dans un roman.
Ouais. Et alors je suppose, en parlant de cette scène d'Hitchcock, qu'on a envie de savoir qui nous a dénoncé, évidemment.
Oui.
Alors je ne sais pas si vous avez fini par le savoir, vous, de votre côté, mais le, ou plutôt les, dédicataires du livre, ce sont vos voisins.
Oui.
Quelle place ils ont eu dans cette histoire, finalement ?
Voisins, voisines, j'ai mis un E entre parenthèses.
Oui. Voisins, voisines.
Merci de l'avoir remarqué. Je ne sais pas si mes voisins et voisines d'ailleurs liront ce livre, je ne crois pas. Mais
on les embrasse au cas où.
On les embrasse. Non, je ne les embrasse pas du tout. Mais en tout cas, je dis au passage que ce choc finalement m'a permis d'écrire un roman sur la surveillance. Donc voilà.
C'est déjà pas mal finalement.
j'aurais pas pensé faire quelque chose de cette histoire. Assez terrible, mais bon. Oui, à un moment donné, ça s'est passé dans ma vraie vie et je le raconte dans le livre. J'avais l'impression d'être dans un cluedo avec mes enfants et mon mari. Mes enfants qui, à l'époque, avaient 7 et 14 ans. On se demandait, mais qui donc nous a dénoncé ? C'est la vraie sujet.
Il y a un moment, le mari, Alexandre, justement, précisément, c'est pour ça que je pose cette question. Il se pose la question, est-ce que ce serait pas... je me souviens plus des noms de famille des voisins, mais...
Oui.
Machin, machine.
Oui, oui, oui. Est-ce que ça serait pas les Normands ? Est-ce que ça serait pas les Berchons ? Est-ce que ça serait pas Morgane ? Et c'est vrai que je me suis amusée à écrire une scène qui serait un peu comme un cluedo, parce que je dis, c'est comme si le manoir de Tudor avait déménagé et s'était installé dans le 15e arrondissement. Qui donc a dénoncé la famille Cordonnier ? Avec quel téléphone et depuis quel appartement ?
Et puis il y a un événement dans le livre que je vais pas donner parce que c'est tout l'intérêt aussi de ce livre, qui est une fiction, rappelons-le. Comment, à partir de tout ce qu'on vient de se dire, vous avez pris le matériau qui est votre vie pour construire ce roman ?
Oui, alors c'est tout à fait ça. J'ai utilisé ma vie et ce qui m'était arrivé comme un matériau romanesque pour essayer d'imaginer ce qui se passerait dans une démocratie si la vie de chacun était surveillée jusque dans l'intimité, comme c'est le cas dans les régimes totalitaires. Alors, Il y a un élément qui m'a permis, sans lequel j'aurais peut-être pas réussi à écrire En Garde, c'est que je suis tombée en fait sur un article du journal Le Monde qui raconte que depuis 2016, l'État chinois envoie chez les Ouïghours des agents missionnés par l'État pour s'assurer que ces familles musulmanes et turcophones du Xinjiang n'opposent aucune résistance à leur sinisation forcée et font remonter en fait leurs suspicions. Quand elles en ont, voilà. Et en fait, ces agents, ils font des choses absolument dingues, ils s'installent dans les familles, ils vont même jusqu'à dormir dans le lit des parents. Et je me suis rendu compte que j'avais là, en fait, vraiment un élément qui me permettrait d'imaginer l'histoire d'une famille sous surveillance. Puis il y a aussi une autre chose qui a été assez décisive dans l'écriture du roman. Je me suis souvenue, alors que j'avais déjà commencé à écrire, de mon mémoire de philosophie, dont le sujet portait sur le problème de la transparence dans la démocratie représentative. Et en fait, je suis retournée lire Michel Foucault, Surveiller et punir, et notamment les chapitres qui consacrent à la prison. Et dans ce chapitre, il évoque le panoptique de Bentham. C'est une grande tour centrale qui est placée au milieu en fait, de la prison et qui permet aux gardiens de surveiller les détenus sans jamais être vus d'eux. Je me suis demandé, puisque moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'intimité de la famille. Je dis toujours ce qui se passe et ce qui se cache dans la maison chauffée une fois qu'on a fermé la porte. Et c'est ça que je travaille depuis Trancher, mon premier roman qui est apparu en 2018. Je me suis demandé, au fond, ce qui se passerait si on importait ce dispositif pénitentiaire au cœur de la famille, au cœur de l'intimité, alors même que l'intimité, par définition, c'est cette part de l'existence qui échappe à la contrainte de la société, à la contrainte de l'État et même à la contrainte de la médecine.
Bah justement, c'est la première fois que dans tous les romans, enfin les quatre romans que vous avez écrits, la crise, disons, familiale n'est pas due à la famille, mais c'est due à quelque chose d'autre, d'extérieur, disons. Qui, bah, disons déjà une dénonciation, ça commence par là, en fait,
oui. Hein,
qui vient la faire exploser, en tout cas, qui vient la faire se questionner. Et on sent qu'il y a une espèce de volonté chez vous de jouer avec le lecteur, hein, finalement, de jouer avec nous, de nous provoquer à certains moments, de nous faire réagir. Et je me demandais à quel moment cette figure, cette instance du lecteur, de la lectrice, intervient au moment de l'écriture de votre quatrième roman, parce que c'est nécessairement pas la même chose que quand on écrit le premier, où on pense un peu moins au lecteur. Maintenant, j'imagine que vous avez un peu aussi intégré cette notion du fait que les lecteurs allaient vous lire.
Alors, vous avez raison, quand on en est à écrire le quatrième roman, effectivement, a priori, on se dit...
On sait quoi qui va...
On sait qu'il va être publié, mais ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, on peut galérer, ne pas y arriver tout de suite, mais a priori, on sait. Alors que, très justement, comme vous l'indiquez, le premier roman, ça reste toujours une sorte de miracle, et enfin, moi, j'ai jamais imaginé que ça allait fonctionner.
C'est ça.
Mais après, quand on écrit... Moi, je pense pas au lecteur quand j'écris.
Okay, ça change rien pour vous, quoi.
C'est-à-dire, ce qui m'importe, c'est de me glisser dans la tête et dans le corps de chacun de mes personnages, qu'il s'agisse d'une mère de famille qui n'arrive pas à aimer son enfant qui change de couleur dans un lieu quelque part, ce qui était mon deuxième roman, ou dans Pas ce soir, où je me suis glissée dans la tête et dans le corps d'un homme qui fait plus l'amour avec sa femme et qui en est très malheureux. Et cette fois-ci, j'étais un peu plus près de moi, puisque même si je me sers de ma famille comme un matériau romanesque et que mon personnage s'appelle Amélie Cordonnier, c'est vrai que là, elle était plus près que ce quinquagénaire abstinent. Donc en fait, ce qui m'importe, c'est d'essayer de ressentir au plus près, en l'occurrence ici, c'est l'effroi, la honte, la sidération, comme je disais tout à l'heure, la culpabilité. Et comment est-ce que je vais réussir à écrire une scène qui puisse faire passer ce que j'ai ressenti ? Donc, quelque part, bien sûr, l'idée, c'est de transmettre un sentiment, une émotion, un sens. Ouais, mais je ne peux pas dire que je pense au lecteur quand j'écris. Et peut-être que ça serait raté, en fait. Sinon, il y aurait peut-être une superficialité. Ce qui importe, c'est d'essayer d'être le plus juste possible, en fait. Et puis après, on verra bien, quoi.
Pour revenir au livre en soi,
oui.
Est-ce qu'il y a un moment où, lorsqu'on est dénoncé, c'est le mot, on commence soi-même à douter, à se dire « Mais est-ce que j'ai pas fait ci? Est-ce que j'ai pas fait ça ?»
Ah mais oui.
Que, je sais pas, on s'est comporté de façon un peu maltraitante, finalement.
Bien sûr, c'est ça qui est absolument terrible. Mm-hmm. C'est que j'avais beau ne pas avoir maltraité mes enfants, je me suis sentie coupable et j'ai ressenti une très grande honte. C'était la première fois, moi, que j'étais injustement accusée. Alors bien sûr, j'ai fait face, comme tout le monde, à des injustices dans les cours de récré, mais c'était la toute première fois. Et... C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on peut pas prouver qu'on aime ses enfants. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur que, en fait, mes enfants allaient être entendus séparément. Ça, je le raconte dans le livre, dans la première partie du livre. Je savais pas ce que ça voulait dire séparément. Est-ce que ça voulait dire l'un après l'autre? Est-ce que ça voulait juste dire sans nous? Est-ce que ça voulait dire quand même ensemble? Et donc j'avais très peur à ce moment-là que lors de cet entretien, ils soient amenés en fait à dire des choses qui puissent se retourner contre nous. Par exemple, ben, quand on a des, enfin, je pense que toutes celles et ceux qui ont des enfants, ils ont peut-être été confrontés comme moi un jour ou l'autre à ce genre de phrases, des petits qui du style « Oh maman, tu t'énerves toujours pendant la dictée », ou bien « Oh toi papa, version peut-être adolescente, toi papa, tu pètes toujours un plomb à chaque fois qu'il faut remplir la voiture pour partir en vacances ». Et évidemment, ces phrases sorties de leur contexte, elles peuvent dire tout autre chose.
Mais tout peut vouloir dire tout autre chose. Par exemple, il y a cette phrase dans le livre, payer des cours particuliers à ses enfants, est-ce s'investir dans leur éducation ou se dédouaner?
Et ça, c'est l'avocate que j'ai contactée, Laura Hennig, je la salue au passage, je la remercie, qui m'a aidée dans la vraie vie et que je mets en scène dans ce roman. Elle en était d'accord, et puis elle n'est pas tout à fait nommée, que j'avais appelée sur les conseils de mon éditrice, qui était dans la confidence à l'époque, quand j'ai reçu cet appel. Et il y avait que deux personnes qui étaient au courant, en fait, de ce choc et qui me procurait une grande honte. C'était ma mère et puis mon éditrice. Et en fait, à l'époque, j'avais raconté à Laura Hennig ce qui se passe et j'ai envisagé de dire que, enfin voilà, de dire que mes voisins, mon immeuble était très vétuste. Laura Hennig, elle m'a déconseillé, elle m'a dit non, Amélie, en fait, il faudra pas du tout parler de la vétusté de votre immeuble mal insonorisé, ni même de l'intolérance au bruit de vos voisins. Parce qu'elle avait mis cette phrase que j'ai mise dans le livre, elle avait dit « Dans le cas de parents maltraitants, c'est toujours de la faute de la chaise Ikea ». Façon de penser que la chaise Ikea n'est pas assez solide. Et voilà, et lorsque je l'ai recontactée au moment d'écrire ce livre, ce roman, il y avait la question de, voilà, est-ce qu'on peut pas prouver, en fait, ni qu'on s'occupe bien de ses enfants, ni même qu'on les aime? Et est venue la question, comme vous le soulignez, voilà, du cours particulier qu'on donne. Et d'ailleurs, elle m'a expliqué que, en fait, dans les procès, les gens essaient de réunir des preuves qui prouveraient qu'ils éprouvent une très grande douleur, alors par exemple de la mort d'un enfant. Alors on les verrait rire ensemble dans un parc d'attractions, on les verrait s'embrasser au restaurant, comme si en fait on pouvait prouver que leur douleur était plus grande et que donc leur affection était elle aussi plus intense et méritée.
Ouais, valable.
Voilà.
Est-ce qu'on peut parler du titre?
Oui.
Comment le titre est arrivé? Est-ce que c'était un titre de travail? Est-ce que...
Ah non.
C'était le titre.
J'ai eu un mal de chien à trouver ce titre.
Okay. Très bien.
Il est arrivé très tardivement et j'ai cru que j'allais jamais le trouver.
Vous en aviez un de travail précisément, de titre ou pas? C'était Doc 14.
Oui, comme une blague, 119.
Okay.
C'était le nom de mon document Word,
ouais.
Mais bien sûr, ça n'allait jamais être ça. Et c'est difficile, un titre. Parfois, il arrive assez facilement. Pas ce soir, je ne l'ai pas trouvé du jour au lendemain, mais d'un coup, il m'est venu quand même assez rapidement. Pas ce soir, c'est quand même cette phrase que chacun ou chacune entend quand son compagnon ou sa compagne ne veut pas faire l'amour, ça m'était venu. Mais alors, pour ce livre-là, j'ai eu du mal à trouver En garde. Et le jour où j'ai désespéré totalement, j'ai dit non, mais j'y arrive pas, puis... C'était bien que je crois que je le dise à mon éditrice parce que le lendemain, je me suis réveillée. Oh, je me suis dit, mais ça serait bien. En fait, j'avais retravaillé, j'avais lu, mais j'avais déjà lu au moins 10 fois le livre, le manuscrit en recherchant qu'est-ce qui peut faire un titre. J'avais déjà noirci 2 pages avec des tas de mots, je ne trouvais pas. Et quand j'ai eu En garde, je me suis dit, mon éditrice aussi me disait cette chose. Ah, il faut aussi qu'il aille bien avec les autres livres. Alors ça, je n'avais pas pensé. C'est vrai, quand on est au 4e, c'est comme s'il fallait créer un peu une famille. D'ailleurs, quand on a des enfants, peut-être les parents savent ça. Je ne sais pas, on s'entraîne à voir si tout le monde va un peu bien ensemble, les prénoms.
Ouais.
Pas pensé que c'était le cas aussi pour les romans. Et ce que j'ai aimé dans En garde, évidemment, c'est la polysémie du titre qui peut s'entendre de plusieurs façons, quoi. En garde, c'est évidemment la position de l'escrimeur qui s'apprête à être sur la défensive ou à l'offensive. La garde, c'est celle qu'on veut pas baisser, c'est celle des enfants qu'on ne veut pas perdre, c'est celle de la sentinelle qui vous surveille, c'est peut-être aussi celle du couteau qu'on rêve d'enfoncer dans, je ne sais pas, j'exagère, mais dans les yeux de celui qui vous espionne. Et quand j'ai fait un petit tour aussi des acceptations de garde, il y a aussi l'expression vin de garde. Alors,
c'est quoi ça ?
Le vin de garde, c'est un vin qui a maturé très longtemps et qu'on savoure par la suite. Donc, je peux pas vous dire qu'on boit du vin de garde dans En Garde, mais on boit pas mal de vin quand même.
Ouais, mais on savoure par la suite aussi, finalement.
Donc, voilà.
Il y a dans le livre une certaine Madame Tragique.
Oui.
Dont la simple prononciation suffit à évoquer des choses.
Oui.
Je voulais parler du choix des noms des personnages.
Oui.
Est-ce qu'ils répondent à une réflexion particulière de votre côté ? Il y a Madame Brune, Madame Dagobert, il y a Lou, il y a Gabriel, ça c'est les enfants. Il y a le mari, Alexandre. Est-ce que vous avez laissé une place à l'interprétation dans le nom de vos personnages ?
Ça c'est un vrai sujet, le prénom des personnages. Alors... D'abord, moi, si je pouvais faire... Pour ce livre-là, c'était particulier, puisque comme j'avais décidé de me mettre en scène, c'était sous mon vrai nom et mon vrai prénom que je me suis mise en scène, j'aurais pu utiliser un autre prénom que le mien et mettre en scène une autre femme dans ce roman. Mais si je faisais passer cet événement pour de la fiction, alors c'était renoncer à partir de cet événement qui s'était passé pour de vrai. Et pour moi, c'était important de dire que ça avait vraiment eu lieu et qu'aujourd'hui, en 2023, on peut encore dénoncer son voisin ou sa voisine de manière anonyme sur un simple coup de fil.
Vous êtes la seule dont le prénom est vrai ou... Enfin, on ne se connaît pas, donc...
Oui, je suis la seule parce que voilà, je voulais protéger mes enfants et mon mari.
Ça, en toute logique. Voilà. Mais bon, sait-on jamais.
Voilà. D'ailleurs, ils ont chacun choisi leur prénom. Et en fait, donc, c'est la première fois que Madame Tragique... Madame Tragique, elle s'appelle Madame Tragique, ça s'écrit pas comme tragique avec un G, ça s'écrit autrement, mais parce que la vraie dame dans la vraie vie, elle avait... En fait, j'aurais pas osé l'appeler Madame Tragique, c'était trop gros, si la vraie dame dans la vraie vie, elle avait pas aussi un nom assez dingue, un nom assez dingue qui nous disait directement que nous étions dans le drame, que nous étions dans une tragédie, donc là je l'ai fait. Mais en tout cas... cette question que vous posez m'intéresse beaucoup parce que c'est la première fois que le personnage principal, la narratrice de mon roman, porte un prénom.
Ouais.
Puisque dans Tranché, mon premier roman, elle n'en avait pas. Dans Un loup, quelque part, la mère qui n'arrive pas à aimer son enfant, elle n'en avait pas non plus. Et dans Pas ce soir, cet homme qui est très malheureux de ne pas faire l'amour avec sa femme n'en avait pas non plus. Je ne sais pas, c'est une manière pour moi de... Si je pouvais ne nommer aucun personnage, peut-être je ne le ferais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être une manière de le rendre au plus près de moi quand je me glisse dans sa tête. Mais voilà, en tout cas, pour celui-là, effectivement, tout le monde a un vrai nom et un vrai prénom.
Alors, vous êtes aussi journaliste littéraire à côté.
Oui.
Comment vous, qui êtes arrivé à ce métier, qui est journaliste littéraire, vous êtes passé de l'autre côté de la force finalement à l'écriture. J'imagine qu'il y a
un côté Star Wars à la chose.
Un peu. Qu'il y a une espèce de porosité entre les deux, bien sûr. Mais comment est-ce que ça s'est articulé au début ?
J'ai jamais pensé en fait que j'allais écrire un jour.
Ok.
J'aurais pu passer ma vie à parler des livres des autres, des films, du théâtre. Et pour moi, ça reste vraiment un petit miracle. Tout ce que je sais, c'est que j'ai écrit Tranché, mon premier roman qui raconte l'histoire d'une famille ravagée par la violence verbale et que j'avais écrit d'ailleurs avant que le mouvement MeToo n'éclate. Le projet, c'était comment écrire sur une violence qui laisse pas de traces.
Qui a servi de pièce à conviction potentielle dans le livre, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais partie pour l'expliquer tout à l'heure. J'avais peur que les livres servent de pièce à conviction contre moi, puisque dans Tranché, je racontais l'histoire d'une famille donc ravagée par la violence verbale, et dans Un loup quelque part, l'histoire d'une mère à la limite de la maltraitance. Et d'un seul coup, c'est comme si ces livres percutaient ma vie à moi, et comme si la fiction me faisait vaciller. C'était une impression assez vertigineuse. Donc oui, j'aurais pu ne jamais écrire. Et en fait, j'ai écrit Tranché en 2017 dans une sorte d'urgence. Il y a peut-être une phrase, je le raconte comme une anecdote, mais parfois, il y a plus de vérité qu'on ne le croit qui se niche dans les anecdotes. Ouais. Il y a un publicitaire que je nommerai pas qui avait dit qu'à 50 ans, on a raté sa vie quand on porte pas une Rolex. Et bon, moi, je porte pas de montre. De toute façon, maintenant, on a un téléphone, donc c'est réglé. Mais en fait, j'en avais jamais porté. Et en revanche, je sais pas, cette phrase était venue et je me disais, moi, ça serait quand même peut-être bien qu'à 40 ans, tu puisses écrire un roman. Je sais pas si ça ferait réussir ta vie, mais bon, ça serait peut-être bien. Et puis, j'ai écrit et j'ai eu 38 ans quand Tranché a paru.
Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Pas grand-chose.
Donc, c'était bien.
Est-ce que vous avez désormais, du coup, ça fait donc... ça fait quelques années que vous écrivez
maintenant.
Ça fait 5 ans.
Oui.
Est-ce que vous avez installé des habitudes d'écriture ?
Ah oui, comme j'ai toujours peur de jamais réussir à écrire de nouveau, j'écris tous les jours.
Okay.
C'est la solution que j'ai trouvée. Et vous me demandiez tout à l'heure comment j'étais passée de parler des livres des autres à en écrire moi-même. Mais en fait, j'ai eu cette chance à interviewer tout le temps des écrivains et à les interroger sur leurs secrets d'écriture ou comment ils font. Et ben, il y a 10 ans, la première fois que je rencontrais Amélie Nothomb, elle nous raconte, parce que maintenant, on sait toutes et tous qu'elle écrit tous les jours entre 4h et 7h du matin avec son petit Bic bleu sur son cahier. Moi, j'écris pas, en tout cas pas au début, enfin, à part quelques notes sur mes carnets. Mais après, une fois que je suis lancée, j'écris sur l'ordinateur. Mais j'ai gardé cette idée de me dire qu'il faut que j'écrive tous les jours. Je sais pas, quand on prépare un marathon, on court un petit peu tous les jours. Quand on apprend à lire, on lit un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que cette humilité et un peu ce côté artisanal de se dire qu'en écrivant tous les jours, même si on avance doucement, eh bien, on reste près de ces personnages. Et en fait, c'est ce petit miracle qui arrive, c'est que on se met en fait à écrire des choses qu'on n'avait pas forcément prévu d'écrire, parce qu'en travaillant tous les jours, moi j'aime bien aussi travailler la langue, c'est très important pour moi, et les images, essayer de coudre des phrases qu'on n'a pas déjà entendues. Et en fait, en écrivant tous les jours, on se met à écrire des mots et des mots, une expression, et cette expression, on va la dévier, la dévoyer, la tordre, la coudre dans un autre sens, et alors on va être emmené comme ça, et c'est le récit et les personnages qui nous entraînent, en fait. Et quand on écrit tous les jours, j'ai l'impression que c'est un peu comme un ami, en fait, même si on a toujours quelque chose à lui dire, un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et c'est aussi à se voir tous les jours, ou à se donner un petit peu de nouvelles tous les jours, qui fait qu'on a toujours quelque chose à lui raconter, et que si on l'a pas vu depuis longtemps, on sait pas bien par quoi commencer. Et c'est un peu ça avec l'écriture, il y a une proximité et une connivence avec ces personnages, je trouve qu'on entretient à partir du moment où on est dans une fréquentation quotidienne.
Ouais. Est-ce que vous écrivez ce que vous aimez lire ?
C'est une jolie question. Ce que j'aime lire, ce sont des livres qui me dérangent, des livres qui me secouent, des livres qui me conduisent à peut-être remettre en question des choses qui me semblaient aller de soi. Mmh. Donc ce que j'essaie d'écrire, c'est des choses que j'ai pas lues, en fait, surtout. Et j'essaye d'écrire sur des questions qui me paraissent être des tabous. Ou en tout cas, tabou, c'est peut-être un grand mot, excusez-moi. Ouais. Mais en tout cas, écrire sur des choses qu'on ne dit pas beaucoup.
Ouais, moins de lieux communs, quoi.
Oui.
Alors, vous êtes une grande lectrice, bien sûr, puisque c'est votre métier en partie.
Oui.
Est-ce que... donc, je suppose qu'il y a des livres que vous lisez, que vous n'auriez peut-être pas lus d'ordinaire. Ça fait partie, j'imagine, du job aussi.
Oui.
Et de la beauté du métier.
Oui.
Où se situe le plaisir dans vos lectures, finalement ?
Déjà, c'est quand même assez merveilleux d'avoir comme travail que de lire des livres.
On a connu pire.
Voilà. Le plaisir est toujours là, en fait.
Vrai, ouais.
Oui, oui. Après, il y a évidemment des livres qu'on aime moins que d'autres. Mais lire, c'est toujours une aventure. J'ai cette chance. Alors oui, c'est très juste. Il y a des livres que je dois lire et qu'on me commande de lire. Mais enfin, la plupart du temps, je décide aussi. Je choisis les livres que je veux lire. Parfois, je ne les choisis pas. Comme tout un chacun et chacune, je tombe sur un livre, je l'ouvre et je suis emportée. Il y a des livres parfois qu'on me demande de lire, je ne les aurais jamais choisis. Et finalement, c'est des découvertes folles. Et ce que j'aime, j'ai dit tout à l'heure, c'est les livres qui me dérangent. Et c'est aussi ce qui va faire qu'un livre me bouleverse. C'est à la fois, bien sûr, de ressentir au plus profond de moi, que ce soit la drôlerie, la tristesse ou la peur, ce qui m'est raconté. Mais c'est surtout la langue, en fait. Quand d'un seul coup, je lis des phrases que j'aurais jamais imaginé pouvoir coudre comme ça, qu'elles éveillent des images inédites, que les mots soient rapprochés ensemble d'une façon, j'allais dire, enfin que les phrases brillent un peu comme une pierre précieuse, et que les mots ne soient pas démonétisés, mais que d'un seul coup, on les entende, qu'ils suscitent des images qu'on n'ait pas lues ailleurs. Je trouve que c'est ça, en fait, que je recherche lorsque je lis. Être confrontée à une langue.
Trop bien, j'adore l'idée. Je vais vous poser la dernière question que je pose à toutes mes invitées.
Oui.
À tous mes invités. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ?
Alors, mon coup de cœur le plus récent, c'est un lieu que j'ai découvert cet été. C'est la piscine à Roubaix. J'avais envie depuis de nombreuses années d'aller la visiter, puisque comme vous l'avez dit, je suis journaliste. Et donc, il m'arrivait dans les journaux pour lesquels je travaillais de choisir des photos pour aller inciter voir des expos de la piscine, mais que je n'avais jamais vu en vrai. Je rêvais d'y aller. En fait, la piscine, c'est un musée qui a été créé en 1932 à Roubaix. Le maire de l'époque, à l'époque du Front Populaire, voulait créer un lieu qui puisse être beau, qui puisse offrir l'hygiène et le sport à tout un chacun et chacune. Et donc, c'était une piscine avec des bains. Enfin, c'était un très bel endroit qui a d'ailleurs été construit sur... J'ai lu ça après, parce que c'est fascinant quand on y va. J'essaie de vous le décrire pour que vous puissiez vous le figurer. C'est un lieu qui a été construit comme une église. Donc, lorsqu'on rentre dans cette piscine, au-dessus des deux bassins, par exemple, il y a de grands vitraux qui sont dans des couleurs orangées, rouges et jaunes et qui se reflètent dans l'eau de la piscine. L'un figure le soleil levant et l'autre le soleil couchant. Et en fait, cette piscine a été créée en 1932 par un architecte qui, de la belle époque qui, j'imagine, ne se doutait pas un seul instant que cette piscine deviendrait un jour un musée. Elle a été transformée, elle a été réhabilitée en 2001. Puis a grandi en 2018. D'ailleurs, j'ai lu ça, ça m'a intéressée par un architecte qui a travaillé aussi pour le musée d'Orsay. Et donc aujourd'hui, lorsque vous allez à la piscine de Roubaix, c'est assez exceptionnel, vous prenez votre ticket, vous rentrez dans le musée et vous découvrez le bassin avec toujours de l'eau, au milieu duquel, qui trône au milieu du musée, et tout autour duquel a été disposé des sculptures et des tas d'œuvres d'art. Vous avez les vitraux qui se réverbèrent dans la piscine, vous avez des œuvres qui sont exposées dans les cabines qui ont été conservées, on a gardé des traces de la mosaïque, et à un moment donné, j'ai été surprise dans la visite parce que je me suis mis à entendre des bruits et des sons. Et en fait, de manière épisodique, il y a des cris de nageurs et des éclaboussures qui sont diffusées. Et tout est là pour qu'on se croie à la piscine. Okay. Alors moi, j'adore nager et j'aime aller au musée. Donc si, comme moi, vous aimez ça, profitez, offrez-vous une petite escapade pour faire prolonger l'été.
Et j'ai vu des photos, c'est effectivement très beau. Donc je conseille aussi, tiens. Merci beaucoup, Amélie Cordani.
Merci à vous.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.